Bonjour! Bonjour tout le monde! Ah, comment ça va? Bienvenue! Bienvenue les copains! Tout roule? Ouais. Tout se passe bien chez vous? Petit dimanche tranquille, en toute décontraction finalement. Flight Simulator, tout ça, tout ça. Le rhume de l'enfer. Ah, courage! Ah, c'est chiant ça. Nouveau décor, non, c'est toujours le même décor, c'est mon setup de stream. Vous avez vu, il y a le chat en Lego. Il y a le chat en Lego qui a été fait. Je l'ai terminé hier. Il est trop mignon. Vous avez la primauté. Vous avez la primauté du chat dans l'arbre à chat. T'as testé l'alpha de Flight Team 2024? Ah non, je savais même pas qu'il y avait une alpha disponible. Ah non, c'est aujourd'hui que ça sort l'alpha de. De toute façon, je peux pas la streamer, l'alpha, c'est une alpha. J'ai pas le droit. Le chat Lego. Mais oui, le chat Lego. C'est un cadeau de Perceval pour mon anniversaire. Perceval, le modérateur. Il est tout mignon. Ça m'a pris 5 heures, je crois, à faire. Ça va, c'est honnête. Perceval le corrupteur. Exactement. Il y en a plein qui stream l'alpha, mais bon, elle se termine demain matin avec des inscriptions sont déjà fermées. Bon, bah laisse tomber, alors c'est pas grave. C'est pas grave, j'essaierai la prochaine fois, je m'en fous. Je suis pas pressé, hein. Je suis pas pressé, hein. Pourquoi il n'y a pas la rediff du Live Flight Simulator de dimanche dernier? Je crois qu'on a eu un problème d'export. Je crois qu'on a eu un problème d'export et que du coup c'est pas passé. Alors, je sais pas, ou alors j'ai mis une musique qui s'est fait strike, je sais plus, mais il y a une raison. Mais malheureusement, ouais, on a des replays qui peuvent pas être uploadés sur YouTube. Et c'est des corruptions de fichiers de mémoire et on n'y peut rien et c'est trop relou et on sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait comme vol aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on vole? Sur cette belle planète. La dernière fois, on avait fait. On est allé dans les îles, on avait fait la Guadeloupe jusqu'à la Martinique. C'était très sympa comme vol. 8 heures dans l'océan Pacifique. Ouais, faisons ça, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, le stream pas chiant, ouais. Paris-Gibraltar. C'est long, Paris-Gibraltar. Hein. Grenoble-Nice, on l'avait fait la semaine dernière aussi. Je crois qu'il y a un aéroport très très cool, c'est l'aéroport d'Innsbruck. Merde, ça s'écrit comment? Comment ça s'écrit? C'est un aéroport qui est un peu encaissé. Un peu encaissé dans la montagne, et du coup ça le rend particulièrement sympa à faire. LOWI. Merci les amis, vous êtes adorables. Heureusement que vous êtes là. Innsbruck avec deux N, c'est pour ça. Boum. Voilà, on peut se faire une arrivée sur l'aéroport d'Innsbruck. Et d'où est-ce qu'on part? Pour se faire un petit vol un peu sympa dans les montagnes. On peut partir de Genève. L'aéroport de Genève sur le lac Léman. On peut se faire ça. On peut se faire ça. D'où est-ce qu'on va se faire une IFR à basse altitude. Voilà, très bien. Et Innsbruck, on va se poser. Merde, c'est quoi déjà l'aéroport de Genève? LSGG. On part de LSGG. Voilà. Et on se pose à LOWI. Ok. LSGG, on va partir de la 04. Les départs dispo, on va prendre Molu. Molu 4N. Voilà. Et à Lowy, on va faire un atterrissage sur la 26. Les arrivées disponibles. ELMEM. ELME1A. Boom. Et les approches. On va faire une lock simplement sur la 26. Ok, très bien. Ok, très bien. Moi, ça me convient. Alors, on va re-rentrer tout ça dans Flight Simulator. Parce que j'ai la flemme de faire un piste 4 départ Molu 4N. Voilà, Innsbruck arrivée ELME. ELME. Et l'approche, on fait une lock sur la 26. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Pas exactement ce que j'avais rentré, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on prend comme avion pour faire ce petit vol? Est-ce qu'on se reprendrait pas le DA40? Moi j'aime bien le DA40. Merci Aurélien. Un 747 pour un vol aussi court, c'est une perte d'argent. Ça n'a aucun intérêt. Vas-y, on prend le DA62. C'est pas le DA40, c'est le DA62. Conditions de vol, on se met en conditions réelles. Et ma foi, on est prêt. Pour ceux qui veulent venir voler avec moi, soyez le bienvenu, je suis sur le serveur Europe de l'Ouest. Venez sur le serveur Europe de l'Ouest, mettez-vous à Genève et préparez-vous à partir de la piste 4. T'as pas des envies d'acheter un nouvel avion? Si, j'ai déjà acheté l'ATR-72, mais j'ai pas pris le temps de l'apprendre, et c'est quand même un avion qui nécessite qu'on l'apprenne. Donc faut qu'un jour je fasse ça. Hop, ça c'est bon. La TR-42 existe dans le jeu? Oui, bah, il faut l'acheter. Quand t'achètes la TR-72, t'as la TR-42 aussi avec. T'as les deux en fait. Alors, petit réglage qui va bien. Réglage d'altitude. Ah oui, non, merde, attends, puisque le problème c'est que du coup vous apparaissez au même endroit que moi et du coup je vois plus rien. Bougez pas. Voilà. Juste que je m'éloigne un peu. Et là c'est bon. Alors, j'étais en train de régler ma vitesse. Mon altitude, pardon. On va se faire une altitude de. On est dans les Alpes, on va se mettre un petit 12 500 pieds. Pieds, comme ça on sera pas trop haut, on pourra admirer le paysage, ce sera chouette. Ça c'est bon. On va se mettre sur la nav. Pourquoi il veut pas s'allumer? Ah mon bravo, il veut pas s'allumer. C'est original. On reste sur la nav GPS. On choisit l'altitude. On se met un IAS. Est-ce qu'on peut le régler dès maintenant? Ouais, on peut le régler dès maintenant. On va monter à la vitesse de, disons, 110 nœuds. Peut-être 120 plutôt, voilà, 120, 120 nœuds. Ok. Eh ben écoutez, chers amis, on est alignés, hein. On est alignés, prêts à décoller. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié des trucs? En vrai, non. En vrai, non, c'est bon. Allez, c'est parti, plein gaz et on avance. Plein gaz. On garde l'alignement. La poussée est symétrique. Le badin est actif. On continue. Pas d'alarme. On continue. On garde l'axe de piste. On arrive bientôt sur la V1. Rotation. On rentre le train d'atterrissage. Continue à grimper. On rentre les flaps. Et on va prendre notre route tranquillement. Normalement, l'altitude, ça devrait être bon. On verra en fonction des nuages si on reste à cette altitude là ou pas. J'avoue, j'ai pas touché à Flight Sim et à DCS, ça doit faire un an. Là, tu verras, c'est le plaisir revient très vite. Hein. Moi, l'autre jour, j'ai relancé Flight Sim, j'avais un peu la flemme. J'ai fait un vol et laisse tomber, j'en ai refait 4 dans la foulée parce que j'étais trop content. On va reprendre notre route en direction du lac Léman. Le lac que vous voyez là, c'est le lac Léman. On vient de décoller de Genève. Toute l'agglomération genevoise qui est là-bas. Je crois, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. On voit mon ancien lycée. Stylé? Alors, il y a un peu trop de détails sur la carte à mon goût. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est bien ça. On est toujours à 120 nœuds, à 4500 pieds, en montée vers 12500. Tout va bien. C'est pas le coucou de Monsieur Tout-le-Monde. Ah non, le DA-62, c'est plutôt chic comme avion. C'est un avion pour businessman amoureux de l'aviation. C'est comme les TBM. Et la particularité des avions Diamond, c'est que c'est des avions qui volent. Alors ça dépend des générations, mais ils sont arrivés sur le marché avec des avions qui volent au diesel. Ce qui permet des coûts à l'heure de vol plus faibles. Ils ont des moteurs optimisés diesel. Et je crois que récemment, ils sont passés sur le fuel aéronautique. Ce qui leur permet là aussi d'être moins cher que leurs concurrents. Grenoble-Innsbruck, ça va être réaliste avec le carburant?
Oui. Oui, on regarde, on est large en carburant. On est quasiment full.
Non, pas du tout, c'est les RPM, c'est pas le carburant, ça. Fuel flow par heure, gallon par heure, endurance. Ça, c'est la température, on s'en fout. Fuel quantity, c'est là, c'est tout en bas. On a le plein à moitié. En vrai, ça devrait le faire. Le diesel, c'est pratique à haute altitude, t'as de la pression dans les détonations sans passer par les systèmes de compresseurs à plusieurs étages. C'est vrai, t'as raison. Pas besoin de faire du common rail avec des pressions absolument phénoménales. On est toujours au-dessus du lac Léman. On est en train de sortir de notre procédure de départ. On va voler au-dessus des nuages. Alors c'est un peu nuageux aujourd'hui, donc on va peut-être pas voir toutes les montagnes. On verra. Il y a le DA-40 diesel de mémoire dans le jeu. Ouais, le DA-40, il est dans le jeu, ouais. Celui-là, c'est le DA-62. C'est un piston propre quand même. Non, c'est pas un piston. Attends, j'ai un doute. Non, c'est pas un piston. Si? Je suis pas sûr que ce soit des moteurs à piston, hein. Ah, remarque, le diesel en turbine, je suis d'accord avec toi, j'ai du mal à y croire, ouais. Non, bah du coup, c'est du piston, hein. Ouais, non, t'as raison, c'est du piston. Ouais, turbine diesel, ça n'a pas de sens. Regardez, vous êtes assis là, vous. C'est votre place dans l'avion, tout va bien. N'empêche, c'est un petit avion qui peut emporter 6 passagers. Hein. Franchement, pas mal. Hein. Le minibar, il n'y a pas de minibar. Sors la glacière. J'ai mis des bières dans la glacière.
Allez, on arrive à notre altitude bientôt. On va pouvoir accélérer. Là, on est à 120 nœuds. C'est un avion qui doit tutoyer les 220 nœuds, non? En vitesse de croisière, je crois. Est-ce que le jeu est abordable pour un néophyte de l'aviation et surtout, il n'y a pas de matos de simu? Oui, absolument. Ce jeu est tout à fait abordable pour quelqu'un qui n'y connaît rien en aviation. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un bac à sable. Tu prends l'avion que tu veux, tu vas là où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et tu n'as pas besoin de matériel comme le mien pour trouver du plaisir à jouer à ce jeu, bien au contraire. Voilà, on accélère. Ah non, on va accélérer jusqu'à 160 nœuds. Avec le jeu en vanilla, on a quand même quelques avions à jouer. On a plein d'avions à jouer avec le jeu en vanilla. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Vraiment, hein. Il y a ce qu'il faut. Il y a des petits, des gros. Il y a des hélices, il y a des hélicos. Il y a de la voltige. Il y a des avions de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des avions modernes. Il y a tout ce que tu... Il y a tout. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, je vais réduire un petit peu le régime moteur. Pour qu'on économise du carburant. Ça va nous faire ralentir un peu. Voilà. J'ai quand même hâte du mode carrière dans Flight Simulator 2024, il est très prometteur dans l'alpha. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est... On verra. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça manque surtout de but et d'objectifs, je trouve. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est le problème des jeux bac à sable, c'est que tu n'as pas de but. Le jeu ne te dit pas quoi faire, le jeu ne te dit pas... Alors, le jeu propose quelques missions... plus ou moins sympathique. Donc si tu t'ennuies, tu peux toujours faire les missions du jeu. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux télécharger gratuitement un add-on, un logiciel tiers, qui te permet de simuler dans le jeu des missions, où tu dois gérer une carrière. Tu dois gérer ton argent, tu dois gérer ton carburant, tu dois gérer tes avions, tu dois accepter des missions. Ça te permet d'avoir des choses à faire, parce que du coup, on te dit ce que tu dois faire. C'est un peu comme Euro Truck Simulator, hein. Tu vas du point A au point B, voilà, on y va, quoi. Et tu dois le faire en un minimum de temps, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y en a deux principaux des logiciels comme ça. Il y en a un qui s'appelle OnAir, O-N-A-I-R, OnAir, et l'autre c'est NeoFly. NeoFly, comme ça se prononce. C'est les deux principaux. Est-ce que tu sais comment gérer le mélange suivant l'altitude de certains appareils? Alors dans cet avion-là, il n'y a pas besoin de gérer le mélange. Il est fait automatiquement, le mélange, ce qui est plutôt agréable. Dans d'autres avions, effectivement, tu dois gérer la richesse de ton moteur en fonction de ton altitude pour ne pas trop gaver ton moteur et d'une manière générale pour économiser du carburant. Tu dois gérer à la fois la richesse de ton moteur, la richesse du mélange, air-essence, tu le fais à la main, et tu dois gérer aussi la vitesse de rotation des hélices. Bon, je vais réaccélérer un peu parce que là, on est tombé à 116 nœuds. Sachant que On Air est sur abonnement. Oui, tu as raison de le préciser. On Air est payant. NeoFly est gratuit. Voilà, partant de là, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai fait les deux. Et ils sont très bien. Est-ce qu'il y a des avions concept ou des avions qui n'ont jamais existé? Ouais. Il y en a. Il y a notamment le... Le volocoptère. Vous savez, le taxi volant, là, le taxi drone qu'on était censé avoir pour les JO à Paris. Il existe dans le jeu. Et puis par ailleurs, donc, une fois que vous avez téléchargé Flight Simulator, vous pouvez télécharger énormément d'add-ons et de plugins gratuits. Alors il y en a des payants, il y en a des gratuits, mais il y en a beaucoup de gratuits, qui vous permettent de changer votre jeu, de rajouter des avions, de rajouter des trucs... Vous pouvez améliorer la définition du terrain, vous pouvez améliorer les nuages, vous pouvez améliorer les avions. D'ailleurs, il y a des add-ons d'amélioration des avions. Est-ce qu'il y a le Beluga? Non, il y aura le Beluga dans le prochain jeu. Le Beluga sera dans le prochain jeu qui sort en novembre. L'ornithoptère de Dune, ouais, il y a l'ornithoptère de Dune dans le jeu, ouais. C'est un add-on gratuit qui a été développé pour la sortie du film Dune. Est-ce qu'on peut jouer en VR? Oui. Il y a le vaisseau de Halo. Oui, il y a le vaisseau de Halo, oui. Oui, il y a le vaisseau de Halo. Ils ont rajouté le vaisseau de Halo parce que c'est Microsoft. C'est Microsoft qui fait le jeu, donc forcément, ils ont mis le vaisseau de Halo, c'est assez marrant. Il y a aussi le Blackwing de Top Gun, qui est un avion concept qui n'a jamais existé, mais qui va à plusieurs fois la vitesse du son. J'aimerais me lancer un peu dans le jeu de manière occasionnelle. Est-ce que les tutos dans le in-game sont bien faits? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher des tutos sur internet? Les deux. Les tutos du jeu sont bien faits. Hein. Les tutos du jeu vont vous... Alors ils sont en anglais. Et ils vont vous apprendre les bases du pilotage d'un avion. Comment on gère machin. Comment on fait un virage et tout. Donc c'est assez bien fait. Hein. Mais moi je me permets de te suggérer d'aller assez rapidement sur YouTube. Où tu trouveras un nombre incalculable de tutos. Sur tous les avions possibles et imaginables, dans toutes les langues possibles et imaginables, il y a des youtubeurs hyper dédiés qui font des super tutos pour t'apprendre à piloter un avion. Les avions, ils sont créés sur la communauté ou par les devs ou par les deux? Les deux. T'as des avions gratuits qui sont faits par des passionnés bénévolement. Donc c'est vraiment un add-on gratos fait par des collectifs de joueurs qui ont absolument envie de développer cet avion-là. Donc ils se font chier, ils passent leur week-end à développer l'avion. Ça existe, c'est gratuit. Et tu as aussi des add-ons payants, donc c'est des entreprises qui développent des avions pour Flight Simulator. Et qui les vendent. Et les avions, ils vont de 5-6 dollars jusqu'à 70 dollars. En fonction de la complexité de l'avion, en fonction de la demande, etc., etc. Donc là, c'est bien baigné par les nuages, mais à droite, nous avons les Alpes. C'est comme dans le milieu du sim racing. Ouais, c'est comme dans le milieu du sim racing, exactement. Il y a des passionnés qui développent des bagnoles et tout, bah c'est pareil. C'est pareil. Et le but du jeu étant d'être le plus proche possible de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des joueurs qui trouvent que les avions de base du jeu sont pas assez réalistes et qui du coup ils développent des add-ons d'amélioration de l'avion. Là je l'ai pas installé, mais si ça se trouve sur internet, je suis sûr qu'il y a un pack d'enhancement du DA-62 qui améliore l'avion. En fait il le rend plus réaliste. C'est-à-dire qu'il améliore ses vitesses de montée, de croisière, il rend plus cohérent ses altitudes, ses machins et tout. Enfin bref, il améliore quoi. Et comme ça, un vrai pilote de DA-62 dans la vraie vie, quand il joue dans le jeu, il retrouve exactement le même avion, avec les mêmes caractéristiques et tout. Globalement, le jeu est purement réaliste ou c'est assez permissif par rapport à la réalité. Alors, tu as plusieurs manières, dans les options du jeu, tu peux sélectionner un mode arcade qui te permet d'avoir un jeu assez peu réaliste, mais très permissif. Donc c'est soit si tu débutes, soit juste que tu as envie de faire des loopings avec un Boeing, tu peux te mettre dans ce mode-là. Par contre, si tu te mets en mode réaliste pur, comme je suis là actuellement, oui, c'est purement réaliste. C'est-à-dire que là, la météo à l'extérieur de l'avion, elle est en temps réel. Donc c'est vraiment la vraie météo qui fait à Genève, là, qu'on a actuellement autour de l'avion. La vitesse que j'ai, l'altitude que j'ai, etc., c'est purement réaliste. Les procédures de navigation que je suis, ce sont les vraies procédures. Hop. Là, je suis pas sûr qu'on soit exactement sur le... Je pense qu'en fait on a un plan de vol un peu différent. Ouais, on a un plan de vol un peu différent. La météo est plus crade que ça à Genève aujourd'hui, mais c'est normal, c'est parce que je suis au-dessus des nuages là. Il fait toujours beau quand on est au-dessus des nuages, vous savez. Comme dirait Zao de Sagazan. C'est un peu plus nuageux à Genève. Mais non, mais c'est nuageux au sol, les gars. Pas en l'air, hein. Là, les mecs qui habitent en dessous de ces nuages-là, pour eux, il fait pas beau, hein. Nous, on est au-dessus, hein. Pluie faible à partir de 14h sur Innsbruck avec 12 degrés, messieurs, dames. Merci Aurélien. T'es contrôlé là ? Non, non, je suis pas contrôlé. Je suis pas contrôlé. Je laisse tomber la TC. Vous avez jamais vu les vidéos sur YouTube de pilotes de ligne qui mettent des GoPro dans le cockpit et qui font des vols ? Tu vois les mecs décoller, il pleut, il fait froid, les nuages sont bas, gris, c'est horrible, le temps est dégueulasse. Et dès que l'avion a décollé et qu'il est au-dessus de 10 000 pieds, il fait grand bleu. Bah oui, c'est normal, ils sont au-dessus des nuages. La météo s'adapte à celle du réel, tu peux aller voir les tempêtes et tout. Ouais, absolument. Il y a des youtubeurs qui sont spécialisés dans le fait d'aller voler dans les ouragans. Dès qu'il y a un ouragan dans la vraie vie, ils vont dans le jeu et ils vont voler dans l'ouragan, ça les fait marrer. J'ai regardé, moi, ça, je trouve pas ça ouf. Je trouve ça bon. Il fait gris, il y a beaucoup de vent, oui, bon, d'accord. Je suis pas giga emballé. Mais ouais, tu peux. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Paris. J'étais à Paris avec des potes, on est allé se promener et tout. Et on va à Montmartre, donc on a une belle vue dégagée sur Paris et tout. Et là, je vois au loin une énorme formation nuageuse, absolument magnifique. Des nuages gigantesques et tout, enfin vraiment l'orage qui approche, machin. Je suis rentré chez moi, j'ai lancé le jeu, je suis allé voler dans les nuages que j'avais vus. C'était trop bien. Il y a un truc que je voudrais vérifier, c'est est-ce qu'on a la Vénave ? Ouais, on a la Vénave. Si j'active la Vénave, qu'est-ce qu'il nous dit ? Faut que je regarde mon... Faut que je regarde mon plan de vol... Est-ce qu'on a des altitudes qui sont indiquées ? Pas du tout. Est-ce qu'il nous indique un top of descent ? J'ai pas l'impression. Si, il nous l'indique. Nickel. Très bien, parfait. Donc on a bien la Vénave. La Vénave, c'est la navigation verticale. C'est-à-dire que je demande à l'avion de m'indiquer en fonction des points de mon plan de vol, à quelle altitude je dois être. Est-ce que tu voles en réseau de temps en temps, IVAO, VATSIM ? Non, jamais. Jamais, jamais. J'avais essayé, c'était sympa, mais j'ai pas l'habitude, donc je vole hors réseau. Où allons-nous, commando ? Alors pour ceux qui nous rejoignent, chers amis, nous sommes partis de Genève. Nous avons survolé le lac Léman. Et nous nous dirigeons gentiment vers Innsbruck. C'est quoi voler en réseau ? Il existe sur Flight Simulator des réseaux de vol et de contrôle aérien virtuel. C'est-à-dire que là, je le fais pas dans le jeu, mais d'habitude, normalement, quand tu voles en avion, tu dois demander l'autorisation à la tour de contrôle pour décoller, pour suivre ta navigation. La tour de contrôle te donne des indications, etc. Il existe des réseaux qui te permettent de le faire en vocal avec des vrais êtres humains qui jouent en réseau et qui contrôlent l'espace aérien. Donc, ils font le boulot d'un contrôleur aérien, mais dans le jeu. Et donc, ils te donnent des autorisations d'atterrissage, de décollage, de machin, etc. Et tu dois suivre ton plan de vol, tu dois suivre leur direction, tu peux leur demander de l'aide, etc. Il existe deux réseaux comme ça, principaux sur Flight Simulator. Il y a IVAO et VATSIM. De mémoire, VATSIM, c'est très américain, et IVAO, c'est plus européen. Mais je veux pas dire de conneries. S'il y en a qui savent mieux que moi, corrigez-moi. Je contrôle la tour de Lyon-Saint-Exupéry. Ah, trop bien! Et bah, il y a Perceval qui est modérateur dans mon chat, qui est contrôleur sur Nantes. L'aéroport de Nantes est contrôlé de temps en temps. Vous pouvez tomber sur Perceval. Voilà. C'est vachement bien, mais c'est très contraignant, surtout en stream, car tu dois être hyper concentré sur les communications avec la tour et c'est pas facile d'animer ton stream en même temps. Ouais, ça c'est vrai. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je joue pas sur IVAO et VATSIM. En fait, c'est très très exigeant. Ce qui est très bien, hein, c'est très fun en termes d'expérience de jeu. Par contre, en stream, c'est un peu compliqué. Et par ailleurs, c'est un peu shady le fait de diffuser en stream les contrôleurs aériens qui n'ont pas forcément donné leur autorisation pour être diffusés. J'ai vu qu'il y avait eu des complaintes autour de ça, sur VATSIM notamment. Il t'envoie aussi des rafales si tu mets 7500 dans ton le transpondeur? Non. Alors, vous voulez toujours avec moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 5 avions. Stylé. Par contre, effectivement, je sens qu'on va avoir besoin de remettre du carburant à un moment. J'aurais dû mieux préparer mon carburant. L'Alticas en sueur, ouais putain. Heureusement qu'il est désactivé l'Alticas parce que sinon il hurlerait. L'Alticas, c'est le système d'alerte de proximité aérienne. En gros, quand il y a un avion qui s'approche de toi, ça te hurle dans les oreilles. C'est le dispositif anti-collision. Coup de la panne. J'ai entendu des histoires comme quoi tu te fais engueuler si tu suis pas les procédures. Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. La toute première fois que j'ai joué sur IVAO, ça a pas été un super bon souvenir parce que effectivement, je découvrais, j'étais nouveau quoi. Et je me suis fait allumer la gueule par la tour, le mec il était super froid. Ouais, d'accord. Ok. Comme dans la vraie vie, ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est dimanche, hein. Moi, je suis là pour jouer, pour me faire plaisir, pour que ça se passe bien et tout. Hein. Merci, Convoi Stupide, pour les bitcoins. Merci beaucoup.
Les hardcore simmers.
Ouais.
Le 2024 dans un mois, absolument. Dans un mois, nous avons le prochain jeu Flight Simulator 2024. Ça va être chouette. On va faire des streams et tout. T'as des passagers aujourd'hui ou c'est juste un vol de plaisance? Non, non, c'est un vol de plaisance. Voy et Vatsim, ils proposent des sessions de formation, il faut les suivre avant de se lancer sur le réseau. Ouais, je sais, je l'avais fait. Hein. C'est une grosse mise à jour ou c'est un nouveau jeu complet? C'est un nouveau jeu complet. C'est un stand-alone. On pourra faire des vols communs entre Flight Simulator... Non, 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 tu pourras pas faire des vols communs entre les deux jeux. Ce seront deux jeux différents. Donc il faut racheter un nouveau jeu. C'est, on repart de zéro. La seule chose que les développeurs ont annoncé, c'est que les add-ons de Flight Simulator 2020 seront compatibles avec, avec le jeu Flight Simulator 2024. Donc normalement, si tu as acheté des avions, des trucs comme ça, t'inquiète, tu les auras dans... Ils sont toujours à toi et tu pourras les utiliser dans le jeu Flight Simulator 2024. Ils ont rassuré un peu tout le monde avec ça parce que ça avait commencé à faire flipper les gens. Bon, c'est quand même beaucoup la purée aujourd'hui, hein. Impressionnant. Certains avions seront gratuitement upgrade, mais c'est pas encore sûr à 100% pour tous. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a encore des craintes, hein. Ce que je comprends, c'est logique, hein. Il y a des craintes qui s'expriment où tout le monde n'est pas sûr que tous les add-ons fonctionneront bien. On croise les doigts. Est-ce que t'as encore le truc pour avoir le Dogo en copilote? Oui, mais j'arrive plus à le faire marcher. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a la liste des avions du jeu de base? Ouais, ouais, c'est sur internet, ça. Ça risque pas de séparer énormément les communautés d'avoir deux jeux différents? Non. Je pense pas. Comment on peut ajouter des mods sur le Flight Simulator 2024? Là, j'en sais rien. Il est pas encore sorti, je peux pas te dire, je sais pas. Je suppose que ça va être comme le précédent, donc il va falloir télécharger les mods et les installer dans un dossier du jeu. Il va être sur le Game Pass aussi, le nouveau, je crois. Le vol du jour, on est parti de Genève et on va à Innsbruck, en Allemagne. On se fait un petit vol à côté des Alpes, là. On va atterrir dans un aéroport très intéressant, l'aéroport d'Innsbruck. C'est un aéroport qui est un peu encaissé. En Autriche. J'ai dit Allemagne ? Pardon, pardon, pardon. Innsbruck, c'est en Autriche. Pardon, pardon. Ça va les copains derrière ? Ça se passe bien ? Je roule. Si vous voulez nous rejoindre, hein. Si vous voulez nous rejoindre en vol, regardez, on est là. Hein. On n'est pas loin du point DITON, Diton. Voilà, n'hésitez pas. Dans la région de Tyrol. Si tu voles sur IAO ou VATSIM, peu importe ton simu, c'est le même serveur. Oui, c'est possible en plus, t'as raison, oui.
D'ailleurs, c'est à 20 minutes à Innsbruck, les cafés viennois sont à tomber par terre. Merci, je retiens le type. Tu peux piloter des rafales? Ouais, si tu télécharges le rafale, oui. J'ai déjà été à 20 cm du Tyrol, en montant le plus haut sommet d'Allemagne. Ah ouais? Let's go, c'est toi Inoxtag? C'est stylé. Le Zugspitze. Bah GG, hein, bravo. Stylé. Tu peux monter jusqu'à quelle altitude? Il y a des avions prévus pour ça? Bah, un avion ne peut pas voler à toutes les altitudes possibles. Un avion pour voler a besoin d'air qui circule au-dessus de ses ailes et qui génère de la portance. Plus vous montez en altitude, moins il y a d'air. Donc à un moment, vous ne pouvez pas monter plus haut. Physiquement, vous ne pouvez plus grimper. Vous êtes arrivé au plafond du domaine de vol de votre avion. C'est aussi une question de vitesse de l'avion. C'est pour ça que le Concorde volait vachement plus haut que les autres avions de ligne. Parce qu'il allait tellement plus vite qu'il pouvait se permettre de monter beaucoup plus haut. Mais il y a une limite. Après, il y a des avions... les U-2, par exemple, ou les SR-71 de la guerre froide, c'était des avions qui volaient extrêmement haut, pour des raisons militaires. Ils avaient besoin d'être le plus haut possible pour échapper au système radar. Et au système missile, surtout. Donc, un avion comme celui-là, je sais pas quel est le plafond de vol d'un DA-62. Je crois que le DA-62 n'est pas un avion pressurisé. Je suis même sûr que ce n'est pas un avion pressurisé. Donc lui, il peut pas voler plus haut que 20, 25 000 pieds à tout péter. Bah après, il n'y a plus d'oxygène, enfin, tu meurs, quoi. Enfin, voilà. Les gens dans l'habitacle, ils meurent parce qu'il n'y a plus d'air. Les Airbus et les Boeing que vous prenez pour aller en vacances, les avions de ligne, ils montent entre 35 et 37 000 pieds. Ils sont dans ces eaux-là, à peu près. Après, en fonction des conditions météo et des conditions de vent, ils vont choisir leur altitude, évidemment, mais... Leur altitude de croisière en général, c'est dans ces eaux-là. T'as une aération dans ton avion, genre une VMC? Ouais, il y a une ventilation intérieure, tu vois ça là, à gauche là. Bah, c'est une buse. C'est une buse d'aération, voilà. Tu peux mettre le chauffage. T'as pas vraiment besoin de la clim, parce que l'air extérieur est tellement chaud, est tellement froid, pardon. Que c'est très facile d'avoir de l'air froid dans un avion, c'est plus compliqué d'avoir de l'air chaud, il faut un système de chauffage. Je sais pas où il est le chauffage dans cet avion. Ça doit être sur l'overhead, non? Il n'y a pas d'overhead. Ouais, si, c'est là. Ouais, c'est là que tu règles la température dans la cabine. Le Diamond DS-62, VNE 372 km/h, plafond 6096 m. Distance franchissable 2376 km. Ok, merci. Le Concorde avait aussi une réduction de la traînée avec son aile delta. Ouais, c'est vrai. Et aussi moins lourd avec une centaine de passagers pour pouvoir voler plus haut que les autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, quand tu dessines un avion, les ingénieurs qui dessinent des avions, ils essayent de remplir des cahiers des charges. Ils essayent de répondre à des cahiers des charges. Et c'est parfois très difficile, tu dois faire des compromis. Tu préfères un avion qui vole haut, un avion qui vole vite, un avion qui emporte beaucoup de passagers. Si le client te dit « je veux pouvoir emmener des centaines de passagers à une vitesse supersonique à très haute altitude », Bah, l'ingénieur, il va lui répondre, ok, mais enfin, ça va te coûter 200 milliards. Le truc, enfin, c'est hors de prix, c'est absurde. Enfin, le calcul est pas bon, tu peux pas y arriver. Donc en fait, t'es obligé de trouver des compromis. Et voilà, les compagnies aériennes trouvent des compromis, les constructeurs trouvent des compromis, proposent des améliorations. Le Concorde, il faisait aussi un bruit de zinzin, c'est pour ça qu'il devait voler plus haut. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, un avion en altitude ne fait plus de bruit au sol. On l'entend pratiquement pas. D'ailleurs, vous le remarquez, quand vous voyez un avion dans le ciel qui a des traînées blanches derrière, qui est en haute altitude, vous n'entendez pas ses réacteurs, il est trop haut. Par contre, un avion qui est en phase d'approche ou en phase de décollage, là, vous l'entendez parce qu'il est proche du sol. Donc le son, vous le captez. Le Concorde faisait un bruit absolument monstrueux, c'était un avion qui faisait un bruit phénoménal, mais en haute altitude on s'en fout, par contre au sol c'était très chiant. C'était très compliqué de faire voler le Concorde, notamment dans des aéroports où il y avait des habitations qui n'étaient pas très loin. Et d'ailleurs, les Américains ne supportaient pas le Concorde, parce que le Concorde c'était une collaboration franco-britannique, qui venait damer le pion de leur compagnie nationale, les compagnies américaines, sur les vols transatlantiques. Pour aller de Londres à New York, le Concorde proposait des vols supersoniques. Et ça énervait les compagnies américaines. Du coup, les compagnies américaines, elles ont fait du chantage avec les autorités aéroportuaires américaines en menaçant le Concorde de ne pas pouvoir se poser à l'aéroport de JFK. De manière à niquer l'équilibre économique du Concorde. C'était un enjeu évidemment économique phénoménal pour Air France et British Airways que de pouvoir desservir New York, évidemment. Et donc les Américains ont dit « Ah non, peut-être qu'on va pas vous autoriser à atterrir à New York, votre avion il fait trop de bruit. » Donc il y a eu des négociations, il y a eu des négos entre la France et les États-Unis pour trouver un compromis pour que le Concorde puisse se poser et décoller surtout, c'est au décollage que ça fait le plus de bruit, à New York. Et du coup le compromis qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont fait une procédure de départ de JFK, de l'aéroport de JFK, spéciale pour le Concorde. C'est-à-dire que le Concorde, quand il décollait de JFK, il avait l'obligation de faire un virage à gauche dès qu'il avait quitté la piste. Il n'avait pas le droit d'attendre d'être en altitude, dès qu'il quittait la piste, il devait faire un virage à gauche pour dégager et ne pas survoler les zones habitées, Manhattan, machin, je sais plus quoi. Je vais essayer de vous montrer. Le décollage du Concorde de JFK, qui reste encore aujourd'hui un des trucs préférés des amateurs de... Je crois qu'on se rend pas compte du bruit. On se rend pas compte du bruit. T'as 4 réacteurs en post-combustion. Je sais pas si vous imaginez. La taille des moteurs en plus. Ah ouais, c'est pas des petits moteurs. Ouais. Et donc là, normalement, quand il va décoller, il va faire un virage à gauche. Voilà. Virage à gauche. Et ça, c'est la procédure obligatoire. Voilà donc le compromis qu'ont trouvé l'Europe et les États-Unis pour permettre au Concorde d'aller se poser à JFK et d'en décoller. La pollution, ah ouais, la pollution à l'époque, voilà, je vais pas vous l'apprendre les amis, hein, c'est les années 60-70, voilà, la pollution, le mot n'existe même pas. Hein. Je vous rappelle qu'on avait de l'essence au plomb dans les bagnoles à l'époque, hein, c'était une autre époque, Non, c'était sympa. Et moi, je me souviens quand j'avais commencé à faire mon brevet de pilote, je prenais des cours à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Je faisais des heures de vol de formation. Et quand on décollait de l'aérodrome, donc c'était des petits avions, hein, c'était des avions, des petits coucous, des DR-400 et tout, on décollait sur une piste en herbe. Et la procédure de décollage voulait que quand on décolle, on fasse un virage à droite de 5 degrés. Mais vraiment 5 degrés. Et moi j'avais dit à mon instructeur, mais qu'est-ce que ce bord, enfin pourquoi, je veux dire, moi c'est hyper sensible, comment tu veux que je fasse 5 degrés? Il m'a dit non mais fais à peu près, montre juste que l'avion va un peu vers la droite, parce qu'en fait on est en procès avec les riverains. On est en procès avec les riverains qui sont dans l'axe de la piste. Et du coup, on a trouvé un compromis qui est que quand on décolle, on fait, voilà, on évite de les survoler et on passe juste à côté, mais pas au-dessus. Je dis, mais c'est débile, ça fait le même bruit. Il m'a dit, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est complètement con. Mais je me souviens, c'était inscrit dans les documents, la procédure de décalage de 5 degrés. T'as une licence de vol? Non, j'ai pas, je suis pas allé jusqu'au bout de la licence. Ça sert à rien de toute façon, donc non. Elles sont toujours en vie, les startups qui veulent lancer les vols supersoniques. Alors, tu parles de quoi? Attention, faut qu'on soit concret. Le vol supersonique n'est pas réservé aux Concorde. Le vol supersonique, c'est un truc que dans l'armée, on fait beaucoup. Il y a beaucoup d'avions qui dépassent le mur du son. La question, c'est le supersonique civil. Il y a des entreprises qui aujourd'hui proposent, ils sont encore en phase de levée de fonds et de tests sur leurs appareils, qui proposent de redonner naissance à des avions de type Concorde, mais beaucoup moins ambitieux que le Concorde, attention, hein, c'est des plus petits avions que le Concorde, qui sont un peu des jets privés en fait, et qui effectivement proposent des vols supersoniques. On est encore en phase de test, c'est-à-dire que la question n'est pas tant technologique, parce qu'on sait faire des avions supersoniques, la question elle est économique. Est-ce que c'est viable économiquement de faire de la recherche et développement d'un avion qui va emporter des gens extrêmement fortunés, faire des vols extrêmement chers? Voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui en doutent, qui se disent franchement, si c'est pour faire claquer les gens $250,000 pour un vol... À part pour s'offrir un petit kiff, il n'y a pas vraiment de réalité économique derrière. Le Concorde, déjà à l'époque, là aussi il faut raison garder, le Concorde n'était pas un avion grand public. Pas du tout. Le Concorde, c'était un avion qui était réservé à une petite élite économique, du showbiz, du sport, etc. C'était Michael Jordan, c'était des hommes politiques, c'était des... Enfin, le vol en Concorde, le Paris-New York, ou le Londres-New York, coûtait un fric, mais monstrueux. D'ailleurs, il n'y avait pas de première classe en Concorde. Il n'y avait qu'une première classe, donc il n'y avait pas de classe, en fait. Être en Concorde, c'était être en première classe. C'était champagne à volonté pour tout le monde, c'était vraiment un truc extrêmement élitiste. D'ailleurs, on m'avait raconté qu'à l'époque, la plupart des gens qui prenaient le Concorde ne prenaient qu'un aller. Ils faisaient rarement l'aller-retour en Concorde. Sauf quelques très rares exceptions, mais la plupart des gens, ils s'offraient un kiff d'un vol en Concorde, ça leur coûtait un fric monstrueux. Et par contre, le vol retour, ils le faisaient en Boeing 747 normal. Hein. C'était beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, le Concorde, vous le savez, hein, l'équilibre économique du Concorde s'est effondré sur justement la concurrence avec les lignes aériennes subsoniques, comme on dit, donc qui n'allaient pas au-dessus du son, mais les Boeing 747, les Boeing A350, A340, etc., qui étaient des avions plus économiques. Certes, ils n'allaient pas plus vite, mais les gens à choisir entre faire le vol en 7 ou 8 heures et payer un prix raisonnable, et faire le vol en 2h30 et payer un prix débilement cher, les gens, ils préféraient voler en Boeing 747. Hein. Tu vois, c'est pas... Compte tenu des programmes en matière de communication, à quoi bon se déplacer en Concorde quand on peut faire des appels en vidéo? Alors ça, c'est vrai, tu as raison, il y a aussi une mutation du marché qui est le Covid. je vais pas vous apprendre que le Covid a été un choc économique pour tout le monde et que le Covid a précipité des développements dans le fonctionnement des entreprises qui rend moins nécessaire le fait de faire des voyages. Qui rend moins nécessaire le fait de faire des voyages. C'est pas la peine de convoquer un comité de direction de ton entreprise à Londres et faire venir tous les cadres à Londres en avion quand tu peux simplement faire un comité de direction en visio. Donc t'as toute une partie du trafic aérien professionnel qui a un petit peu perdu de sa superbe. Le trafic aérien aujourd'hui reste massivement dédié au tourisme. Les gens qui prennent l'avion, pour l'écrasante majorité d'entre eux, le font pour les vacances, le tourisme, le plaisir de découvrir les pays, etc. Machin. Mais donc oui, le déplacement professionnel a un petit peu perdu de sa superbe. Le Concorde, c'est juste un manque d'ambition de la France, à l'image de l'A380 que Airbus a abandonné, alors que les compagnies du Moyen-Orient et d'Asie en voulaient toujours plus. C'est faux ce que tu dis, je suis désolé, c'est faux. Factuellement. L'A380 n'avait plus de clients. Les clients que tu cites, justement, commençaient à se diriger vers des appareils comme les A350, comme les 777, comme les 757, etc. L'A380 n'avait... Voilà, il s'est pas arrêté parce qu'il y a un manque de courage, comme tu dis. C'est juste qu'en fait, il y a un moment, il y a des clients qui achètent et des clients qui n'achètent pas. Regardez Air France, aujourd'hui, ils sont en train de vendre leur A380. Ça marche plus. Et le Concorde, c'est pareil. Concorde, c'est une réalité économique. Il y a un moment, tu peux pas demander à British Airways et à Air France, qui, je le rappelle, étaient les deux seuls clients, hein, quand même, du Concorde, de continuer à faire voler à perte un avion hors de prix juste pour la gloriole de dire on a un avion supersonique. Enfin, il y a un moment, la géopolitique, c'est sympa, mais la réalité économique aussi, elle s'impose à tout le monde. Et à un moment, Air France, ils ont dit au gouvernement français, foutez-nous la paix, en fait, on n'en peut plus de cet avion, il marche plus. Il nous coûte un fric démesuré, on n'y arrive plus, voilà. Par contre, une reconversion en cargo du 380, c'est pas déconnant. Peut-être. T'as peut-être raison, j'en sais rien. Faut voir le modèle économique. T'as aussi un truc qui a pas marché avec l'A380, c'est le fonctionnement en hub. L'idée de départ de l'A380, c'était pas une mauvaise idée. Hein. C'était une idée stratégique de se dire que l'avenir de l'aviation se fera par d'énormes nœuds aéroportuaires. L'aéroport de Washington, l'aéroport de New York, l'aéroport de Dubaï, l'aéroport de Pékin, etc. Et que du coup, tu auras d'énormes avions qui feront des liens entre deux gros nœuds, comme la 380, et qu'ensuite, les passagers, une fois qu'ils auront débarqué à l'aéroport de Dubaï, vu que leur destination finale, c'est pas Dubaï, ils prendront un plus petit avion pour aller à leur destination finale. Donc que les gens feront plus de correspondances. Et le problème, c'est que cette idée-là n'était pas mauvaise sur le papier, sauf qu'elle s'est heurtée à la réalité, qui est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'avions capables de faire des vols de très longs courriers entre deux destinations mineures. Un mec qui habite à Nantes et qui voulait aller à... Je sais pas, Dubaï, justement, il était obligé d'aller de Nantes à Paris pour prendre un avion qui fait Paris-Dubaï. Mais aujourd'hui, il existe des vols qui font Nantes-Dubaï, directement, sans escale. Donc du coup, on sait les évolutions et tops, etc. Je rentre pas dans le détail, mais effectivement, il y a des évolutions du marché qui font qu'aujourd'hui, un giga porteur comme l'A380 marche pas. C'est pas économiquement, les compagnies, elles font leurs calculs. Hein. Les compagnies, elles se disent franchement, entre faire des sauts de puce entre les hubs aéroportuaires et proposer à nos clients des vols directs, on préfère leur proposer des vols directs. Donc on va préférer acheter des A321, des A350. Des avions, des biréacteurs à très long rayon d'action, ça nous coûtera beaucoup moins cher, ça emportera beaucoup de passagers, peut-être pas autant que la 380, mais enfin, on pourra faire du court courrier, pas du court courrier, pardon, on pourra faire des destinations secondaires. À 8000 euros le billet du Concorde sur la fin, c'est compliqué de garder l'avion en fonctionnement. Putain, 8000 balles le billet, c'était dur de trouver des clients. Hein. Moi, j'en veux pas à British Airways et à Air France. Hein. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était une très très belle aventure. Et à un moment, faut savoir dire stop.
Aujourd'hui, c'est 8000 euros pour New York. Et la première et la suite, c'est 15 à 30 000 euros l'aller. Eh ben écoute, je sais pas. Il faudra demander à ses clients qui ont les moyens de se payer un vol en première classe dans ce genre d'avion s'ils préféreraient avoir un peu moins de confort mais aller plus vite. Je suis pas sûr. Faut voir. Canada-Paris, c'est combien ? Écoute, je pense que c'est plutôt Google qui saura répondre à cette question plutôt que moi. C'est quoi le plus long vol que t'es fait IRL? Bah quand j'étais petit, on était parti en vacances. Bah, je suis allé aux États-Unis. Je sais plus combien de temps c'était. Je suis allé à Pékin aussi. Je sais plus combien de temps c'était non plus. Mais ouais. Pourquoi aller plus vite quand le temps d'aller à l'aéroport, de s'enregistrer, d'attendre la sortie, les bagages, etc., c'est un temps incompressible? Alors après, tu as d'autres manières de voler. Effectivement, c'est les... Alors si vraiment t'as de l'argent, si vraiment t'as de l'argent, tu peux utiliser des jets privés. Jets privés, ils décollent à l'heure que tu décides. C'est toi qui décides quand ils décollent. Les formalités à l'aéroport sont très faibles. Tu vas du point A au point B, ça te dépose à l'aéroport le plus proche de ta destination, assez facilement. Voilà. Si t'es prêt à mettre le fric... Avec des forfaits d'entreprise, ça se ferait. Les entreprises américaines, elles entretiennent des flottes de jets privés comme ça, alors que c'est un gouffre financier juste pour le confort des exécutifs de rentrer dans son lit le soir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En parlant de ça, les taxis volants, ils ont existé à Paris pour les JO ? Non. Au début, on nous avait annoncé qu'il y aurait des taxis volants pour les Jeux Olympiques. Après, on nous a expliqué que les taxis volants, ils ne feront pas de taxi. C'est-à-dire qu'ils ne prendront pas en charge des gens. Ce sera juste des vols d'essai. On nous a dit qu'il y aurait des vols tests entre Paris et le Bourget, je crois, je sais plus. Et finalement, je crois qu'il n'y a rien eu du tout. À ma connaissance, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu une info, j'ai pas vu une photo, j'ai pas vu une vidéo des taxis volants. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle Volocopter qui essaie de développer ce business-là. La DGAC a dû dire non. Bah moi j'avais vu que la DGAC ils étaient partenaires du truc hein. Je crois que c'était prévu que dans le cadre de l'expérimentation machin mon cul ils ont eu des problèmes de moteur non conforme. Ah, ah là ça pique. Bon, on est dans un nuage nous, ça y est. Ça y est, c'est la fin. Bon, je suis désolé, je voulais vous montrer les Alpes, mais le jeu a décidé que... Enfin, pas le jeu, hein, la météo a décidé qu'il allait faire moche. Chiant. Je suis nouveau sur le jeu, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment le jeu fonctionne, s'il te plaît? Non, je peux pas. Je plaisante pas, je peux pas. Je peux pas t'expliquer rapidement comment le jeu fonctionne. Va regarder des tutos sur YouTube, moi je peux pas t'aider. Dans Flight Simulator, si tu passes pas ton temps à alerter les tours de contrôle de ton passage... Bah si, tu peux, mais le problème c'est que le trafic aérien, le contrôle aérien, il est un peu buggé dans le jeu. Et il est de notoriété publique, il est connu pour te donner des mauvaises indications. Ce qui a tendance à péter les burnes à un peu tout le monde, moi le premier, donc c'est pour ça que je le mets pas. On va peut-être mettre le pito. Non, il est déjà mis. Le D-Ice, il est mis. L'alternateur, ils sont mis. Non, c'est bon. Hop, voilà. J'ai mis l'anti-givre. Pourquoi j'ai mis l'anti-givre? Parce que on va rentrer dans des nuages, que les nuages c'est humide et froid, et que ça risque de produire du givre sur l'avion.
T'as déjà essayé in-game l'atterrissage à Lukla, l'aéroport au Népal? Ouais, on l'a fait dimanche dernier. On l'a fait l'année dernière. On l'a fait dimanche dernier l'atterrissage à Lukla. Et on s'est écrasé qu'une seule fois. T'es en mode réalisme et tu peux avoir des pépins. Ouais, je peux avoir des pépins. Je peux avoir des pépins, je peux avoir du givre qui se forme sur l'avion. C'est pour ça qu'il faut surveiller un petit peu quand même. Je peux avoir du givre et surtout je peux avoir plus de carburant. Parce qu'en fait j'ai mal fait mon plan de vol. Il me reste genre 10% de carburant. Et il nous reste plus de la moitié du trajet à faire. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez fermer les yeux et je vais rajouter du carburant en trichant. Mais vous avez rien vu, hein. Voilà, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Il se passe quoi si tu triches pas? Bah tes moteurs s'éteignent, hein. Panne de carburant. Je sais pas, j'hésite. Attends. Ouais, on va monter, les amis. On va monter. On va se prendre un bon 20 000 pieds d'altitude. Ouais, j'en ai marre de ces nuages, j'ai envie de monter au-dessus, donc on monte. Allez-vous. Si tu t'écrases, faut racheter le jeu. Que pensez-vous du suivi de la tête dans Flight Simulator? Alors je l'ai, le suivi de la tête, hein, je l'ai là. Un trachier en l'occurrence que j'utilise parfois. Le trachier c'est chouette. Donc le suivi de la tête, pour ceux qui ne savent pas, c'est le suivi des mouvements de ma tête dans le jeu. C'est très très chouette quand tu voles sur certains types d'appareils. Les avions de voltige, les hélicoptères. Et c'est à peu près tout. Ou les tout petits avions. Les planeurs aussi, ouais les planeurs, t'as raison Nélite. Les planeurs. Donc ouais, quand tu voles dans les avions comme là aujourd'hui, ça sert pas à grand chose honnêtement. Et par ailleurs, moi j'ai un problème, c'est comme je suis streamer, je passe mon temps à tourner ma tête vers la gauche pour lire le chat. Donc je peux pas garder la tête en permanence sur l'écran. Et du coup, pour vous, c'est un peu vomitron. À chaque fois que je tourne la tête à gauche pour lire le chat, vous voyez la tête du pilote qui tourne vers la gauche, c'est chiant. DCS, j'ai bien l'impression que c'est impossible sans trachier. Alors DCS, oui, DCS c'est un jeu, c'est un simulateur d'avion de combat. Oui, un avion de combat, t'as vraiment besoin d'un suivi de la tête pour le coup. C'est plus qu'utile, c'est nécessaire, je dirais. Le temps de vol est le même dans la vraie vie ou pas? Oui, absolument. On est en train de faire un vrai vol là, hein. On est en train de faire un vol réel. Pourquoi il monte plus? Ah, parce qu'il a 13 000. Si je retire la VNAV, il a 13 000 comme indication. Moi, je voulais pas monter à 13 000, je voulais monter à 20 000. Je vais lui redonner de la puissance. Est-ce que tu peux piloter des avions de combat? Dans Flight Simulator, tu peux, mais tu ne peux pas larguer de bombes ni tirer de missiles. Ce qui rend le truc limité en termes d'intérêt. Par contre, dans DCS, tu peux. Tu vas cramer du carburant à voler à 20 000, c'est pas écologique. Pourquoi tu dis ça? Je vais brûler moins de carburant à 20 000 qu'à 12 000. Je dois faire un test technique pour Azobo dans les prochains jours pour bosser sur Flight Sim. Oh, trop bien. Première règle sur DCS, ne pas oublier le master arm et d'armer son canon sur le 2000. Je la connais, je la connais. Je l'ai déjà oublié plusieurs fois, le master arm. Je connais, je connais. Bon, nous, on voulait voir les Alpes. On aura quand même essentiellement vu les nuages. Hein. Fait un temps de merde dans les Alpes aujourd'hui, putain. Qu'est-ce que vous foutez, les Alpins, là? C'est dingue, ça. Je vais voler sur un Cirrus SR20, mais tu sais, si le système est suffisamment bien répliqué dans Flight Simulator, je sais pas, j'ai jamais volé sur Cirrus SR20, donc je sais pas. Oh là là, la purée, on est dans la purée, c'est horrible. Allez, on est à 15 000 pieds, on continue à grimper. Je pensais qu'on consommait plus à haute altitude car le carburant oxygène est plus rare. Ça compense pas la baisse de densité de l'air. Non, la raréfaction de l'oxygène, tu la compenses en ouvrant plus largement ton entrée d'air. Puis le compresseur doit travailler plus, je suppose. On va pas tarder à arriver à notre top of descent. Notre descente, elle va commencer par un point qui s'appelle RTT. Alors, top of descent, je veux bien, mais quand je vois la tronche des nuages en dessous de moi... Ok, l'objectif, c'est 9500. Allez, ouf, on descend à 9500. Merci Kiwi pour ton sub.
ton avion vole haut, moins il consomme. Plus ton avion vole haut, moins il consomme, mais plus ton avion vole haut, plus tu as besoin de carburant pour monter en altitude. Attends, j'avais une indication, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La Vénave, elle marche plus. Voilà, merci, je préfère. Je comprends rien. Ça fait des drifts un peu. Bah ouais, regardez, on est effectivement en train de drifter, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir un cap plus à gauche que notre direction souhaitée, mais c'est à cause d'un vent de travers qu'on a de 49 nœuds. 49 nœuds, c'est beaucoup, hein. 49 nœuds de vent de travers. Donc là, l'avion, il avance en crabe. Ça se voit pas forcément, mais je vous jure que c'est vrai. Là, on est censé descendre, mais ça descend pas du tout, hein. Pourquoi on descend pas plus vite, là? Pourquoi on descend qu'à 500 pieds minute et on se traîne le cul C'est peut-être normal, hein. Attendez, excusez-moi, mais sur la charte, on commence à 9500 pieds. Donc c'est effectivement notre objectif, c'est d'arriver au point RTT NDB, le point RTT, pardon, à 9500 pieds. On a bien l'objectif 9500, mais par contre, il descend très lentement. Mystère et boule de schmoll. Tu suis pas la vallée sur le plan de vol. C'est fait exprès. La vallée, on la suivra dans l'autre sens. Notre procédure là, c'est qu'on va survoler les montagnes ici à une altitude supérieure aux montagnes. On va descendre ici à RTT. Et là, on fait un virage à droite pour aller s'aligner. Baisse encore un peu les gaz. Tu penses que c'est les gaz qui sont pas bons? T'as raison, on va essayer. C'est pas convaincant, hein. Non mais tiens, je suis désolé, moi je vais reprendre le truc à la main, hein. Je vais, voilà. Je vais faire descendre, voilà, s'il te plaît, merci. Essaye de descendre un peu plus fort, parce que là on n'y arrivera jamais, hein. Si ça se trouve, je fais n'importe quoi. Et c'était bien le bon plan de descente. C'était bien le bon plan de descente. La Vénave est toujours active. Bah, je viens de la désactiver, la Vénave, là. Justement, je trouvais que la Vénave descendait pas assez vite. Alors que si ça se trouve, elle descendait à la bonne vitesse, hein.
D'ailleurs, ce que je devrais faire, c'est activer l'approche. Alors attends, je vais quand même me méfier d'un truc. Je vais quand même me méfier d'un truc. C'est que j'ai un gros doute sur le fait que mon plan de vol tienne compte de la hauteur des montagnes. Ce qui est, comment dire, un peu handicapant. On verra les Alpes. Ah bah ça, on verra les Alpes, ouais. C'est con. Merci Flo pour ton abonnement, merci beaucoup. Ouais, on va attendre. L'aéroport d'Innsbruck se trouve dans cette vallée-là. Alors à quel endroit précisément, je sais pas, je le vois pas d'ici. Mais c'est dans cette vallée. La Vénaf faisait bien le taf en fait. Bah, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. Il faut sans doute que j'apprenne à faire confiance aux instruments. Mais je vous avoue que la Vénaf, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. C'est pour ça que je suis un peu frileux. Bah, peut-être que effectivement, une bonne fois pour toutes, j'apprenne à lui faire confiance et que voilà quoi. Il y a pas mal de vent en effet. Ah là on est bien là niveau vent, ouais. Ouais. On se fait tabasser par le vent. La confiance n'excuse pas le contrôle. C'est conventionnel d'être aussi près du relief? Ça peut, ouais. Ce qui n'est pas conventionnel, c'est d'être dans les nuages à ce point-là. Mais bon. Enfin, en même temps, on est en vol IFR, donc si, techniquement, je peux être dans les nuages. On a perdu les autres? Non, je pense pas, ils sont derrière les autres. Les autres, vous êtes derrière? Ah non. Ah. Ils sont ni au-dessus ni en dessous. À ce stade, ils sont portés disparus. On est sur une disparition inquiétante. Oui, on suit. Ah! On a une preuve de vie dans le chat. C'est une bonne nouvelle. On peut rassurer les familles de victimes. Voilà. Là, on a un plan de descente qui me plaît. Voilà. Là, il n'y a plus de montagne. On va faire un gros virage à droite là-bas pour aller s'aligner et se poser.
Est-ce qu'à la fin du siècle, il restera encore du pétrole? Et si c'est pas le cas, comment les avions voleront? S'il n'y a plus de pétrole, les avions voleront plus. Et le peu de pétrole qui restera sera tellement cher que ce sera absurdement débilement cher de prendre l'avion, donc il n'y aura plus d'avion. C'était déjà le cas au moment du choc pétrolier, hein. Vous savez que pendant le choc pétrolier, le gouvernement, l'État, a interdit les courses automobiles. Tout le monde a oublié ça. Les courses automobiles étaient interdites. Et vous connaissez le gourou de secte qui s'appelle Raël? Ça vous dit quelque chose? Espèce d'hurluberlu là. Ah, il est un peu passé de mode en France, mais il a surtout été interdit en France. Mais il existe toujours au Japon notamment et en Afrique francophone. Et Raël, c'était le gourou d'une secte, voilà, qui s'appelait la secte raélienne. Un truc un peu New Age des années 70. Et en fait, Raël, c'est un passionné d'automobile. Et quand il était jeune, il était journaliste automobile dans une petite revue. Dans une petite revue qui parlait des courses de second rang. Et au moment du choc pétrolier, il s'est retrouvé au chômage. Et c'est pile poil au moment de ce chômage qu'il a lancé sa secte. C'est quand même con, hein. C'est à cause du choc pétrolier qu'on a eu Raël. Il n'y aurait pas eu de choc pétrolier, il serait resté un petit journaliste minable qui parle de bagnole. On arrive au point RTT, qui est notre point de départ de la procédure d'approche vers l'aéroport d'Innsbruck. Nous avons rendez-vous à ce point à l'altitude de 9500 pieds, altitude à laquelle nous allons arriver dans quelques instants. Notre plan de descente n'était pas mauvais, et effectivement, je pense que la VNAV n'était pas totalement aux fraises sur son plan de descente. D'ailleurs, pour montrer notre confiance dans la VNAV, nous allons la réactiver. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'indication qu'on l'a activé ou pas. Chier. N'insulte pas notre prophète qui a vu la lumière des Elohim, on essaye de leur construire une ambassade. Non mais je préfère en rire, parce que c'est un peu drôle. Mais il y a des gens qui ont beaucoup perdu, hein. C'est terrible, hein, les dérives sectaires. Quelqu'un sait si la saison des châtaignes a commencé? J'aimerais aller en ramasser en forêt. Alors ça... tu parles à un Parisien. Tu parles à un Parisien croyant pratiquant qui mange des cartes graphiques. Voilà, on est en train de taper notre meilleur virage à droite pour aller se poser à Innsbruck qui se trouve là-bas. Ok, donc en fait on commence pas encore notre descente. On la commencera quand on sera au point Advig qui est là. Et là il me met un point intercept. Est-ce que ça veut dire que c'est le point où on intercepte le lock? C'est possible. Il faut que tu entres ton altitude cible avant d'activer la VNAV. Mais l'altitude. Ok, mais attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'altitude cible, c'est pas le plan de vol qui la donne? Normalement, l'altitude cible, c'est l'altitude du prochain point. Si t'es en mode suivi du plan de vol, en tout cas. Je pense qu'il faut un cap clair. Ah, t'es pas le premier à la faire celle-là. En vrai, elle est marrante. Pas pour le maintien de vol avec la PA. Les altitudes dans ton FPL vont juste servir à créer le profil de VNAV. Mais c'est à toi de rentrer manuellement ton altitude cible. Bah mon altitude cible, c'est l'altitude à laquelle je suis actuellement, donc effectivement, tu as raison, je n'ai pas besoin de la rentrer. La raison pour laquelle je suis à cette altitude cible pour l'instant, c'est que notre prochain point, il est après cette montagne. Donc si on commence notre descente avant cette montagne, on va taper la montagne. Donc, en toute logique, la procédure que vous voyez ici en bas à droite, là, verticale, prévoit que je vais jusqu'au point D19, à 9500 pieds, et que seulement à partir de ce point-là, j'intercepte le lock et je commence ma descente. Et on confirme, le D19, il se trouve. Je sais pas où, c'est pas écrit. FL26, 17A. Toujours est-il que c'est quand on sera vertical à cette montagne que normalement on interceptera le lock. Regardez, on voit la piste qui est là-bas. Et c'est bon, le lock est intercepté. Putain, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc le lock, c'est ce que vous voyez ici, c'est cette ligne verte qui a remplacé la ligne rose qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait une ligne rose qui indiquait qu'on était en train de suivre un cap GPS, qui suivait un plan de vol avec des points GPS. Et là, on est rentré dans un autre mode de navigation automatique, qui est un mode, un système de vol de radionavigation. C'est la piste que vous voyez là-bas, qui a une balise qui émet dans une fréquence particulière, qui me donne l'indication à mon avion de son axe pile poil. Ça, c'est pour la version horizontale, et pour la version verticale, on a un glide slope qui est indiqué ici par la lettre G avec le petit diamant vert. Quand le petit diamant vert est pile poil aligné ici, ça veut dire que je suis bien sur le bon axe de descente vers la piste. J'engage le mode approche qui va le suivre en permanence. Et je gère la puissance de mon moteur pendant tout ce temps-là. Salut! Et bienvenue si vous nous rejoignez, on est en train d'approcher de notre aéroport de destination qui est l'aéroport d'Innsbruck, en Autriche. Nous sommes partis de Genève tout à l'heure. T'as une altitude minimum pour passer au-dessus de la montagne. Bah, je suis la procédure d'approche de l'aéroport, qui est celle-ci, qui est l'approche de radionavigation de la piste 26, et qui prévoit, qui me donne l'ordre de me maintenir à l'altitude de 9500 pieds, avant la montagne. Et donc ça me garantit que je vais passer au-dessus de la montagne. C'est la procédure qui est prévue comme ça. Et maintenant, on vient de passer la montagne, donc on vient de commencer notre descente. Tu vois qu'on n'est plus à 9500 pieds, on est à 8200 pieds, et on descend. On descend, on descend, on descend. Et ça va nous guider jusqu'à la piste. Alors qu'on a un... C'est quoi ça? C'est un King Air. Un King Air qui est en train d'approcher lui aussi. Vous êtes combien sur ce plan de vol? 4 avions, 5? Bah je sais pas, il y a les viewers qui me suivent. Il y en a un... 2. Ils sont où les autres? Parce que tout à l'heure on était 5-6. Je sais pas. Ils sont peut-être déjà posés depuis longtemps. Il y en a plusieurs devant là aussi. Tu dois compenser la manette des gaz quand tu descends? Ouais, absolument. Donc là, ce que j'ai fait, que vous n'avez pas vu, mais effectivement j'ai baissé les gaz parce que mon avion est en descente. Qui dit descente dit accélération, hein. C'est comme vous en vélo, dans une descente vous accélérez par la gravité. Donc comme je mets mon avion en descente, je réduis les gaz parce que sinon il va se mettre en survitesse et il va trop accélérer. Donc je dois gérer mes gaz pendant ma descente. Sur les plus gros avions comme les Airbus et les Boeing, vous n'avez pas à gérer vos gaz, vous avez simplement à gérer la vitesse cible. Ou piloter l'avion en lui donnant des ordres, en lui disant « va à telle vitesse, suis tel cap, va à telle vitesse verticale, etc. etc. » Mais là, dans un petit avion comme ça, c'est moi qui gère les gaz à la main. Je vous ai pas menti, hein, l'aéroport d'Innsbruck, c'est classe, hein. Vous avez vu le décor ? Posé entre les montagnes, là, dans une vallée. C'est un des plus beaux aéroports des Alpes, Innsbruck. Il y en a un autre qu'il faudra qu'on essaye. C'est l'aéroport de Sion, en Suisse, je crois. C'est l'aéroport des jets privés, des milliardaires qui vont faire du ski. Et l'approche, elle est splendide. C'est absolument magnifique. Ok, mais on le fait dans l'avion le plus claqué possible. Vas-y, on fait ça. On prend l'avion le plus éclaté, genre un avion de tourisme un peu pété, et on va se poser à Sion. Vas-y, je suis chaud. On attend à qui, attention. Je vais essayer. Un kiss, ce qu'on appelle un kiss, c'est un kiss landing. Un kiss landing en anglais, ça veut dire un atterrissage. Tu fais un bisou à la piste tellement tu la touches à peine, tellement c'est hyper agréable. C'est l'inverse d'un hard landing, où tu écrases ton avion sur la piste comme un gros porc.
Un bon vieux Jodel.
Ouais.
Ouais, un bon vieux Jodel. On continue notre descente, tout va bien, tout est bon, la piste est en vue, il fait clair et dégagé, on a un vent de face pile poil, à 14 nœuds quand même. Hein. Ah, ça pique un peu le vent, il est un peu vénère, mais il est de face donc ça me va. On va continuer à réduire les gaz. On va toucher à 75 nœuds, 80 nœuds. On essaie de toucher à 80. On sort le train d'atterrissage. On descend le dernier cran de flaps. On reprend un peu les gaz pour compenser. Voilà. Continue à suivre le plan de descente et le plan horizontal, tout va bien, on est aligné, l'avion est paramétré, prêt à poser, tout va bien. Là normalement la tour d'atterrissage nous a déjà donné notre autorisation d'atterrissage. Je connais rien, c'est quoi les flaps? Les flaps, regarde, c'est les extensions à l'arrière des ailes là qui descendent. Tu vois là, l'arrière de l'aile. Ça sert à augmenter la portance de l'avion. En échange de quoi, ça augmente aussi sa traînée. Donc l'avion est ralenti. Mais ça te permet. Les flaps sont utilisés, c'est les extensions d'ailes qui sont utilisées pour faire les manœuvres à basse altitude. Notamment l'atterrissage. À basse vitesse, pardon, pas altitude, basse vitesse. On ne les utilise que pour atterrir et décoller. Surtout pour atterrir. Bon, moi je trouve que l'avion est bien. Je vais pouvoir désactiver le pilote automatique, reprendre l'avion à la main, et maintenant c'est moi qui pilote et qui vais poser l'avion. On sent à peine le vent parce qu'il est pile poil en face, donc c'est vraiment parfait. On est légèrement haut. On reprend un peu de gaz. Parce que
Je trouve qu'on va pas assez vite. Très bien, là on est très très bien sur un bon axe de descente. On va garder ça. Un peu haut, pas trop mais un peu. Voilà, là on est bien. Vous voyez les lumières sur le côté de la piste, là, les rouges et les blanches. Il faut qu'il y en ait deux rouges et deux blanches. Ça veut dire que je suis pile poil dans le bon axe de descente. Et on dégagera par la gauche. Oh, vous avez rien senti. Je veux rien savoir, vous avez rien senti. C'était parfait. Je vous ai même... Vous étiez en train de faire une sieste derrière, vous avez pas senti, vous êtes pas réveillé. Est-ce que je peux dégager la piste à gauche normalement? T'as un palonnier? Ouais, j'ai un palonnier. Tu le vois peut-être en bas de la caméra. Non, tu le vois pas. J'ai un palonnier. Un palonnier, pour ceux qui savent pas, ce sont les pédales. Les pédales, ça sert à diriger la dérive, donc l'axe de lacet de l'avion, mais ça sert surtout à diriger la roulette de nez, qui permet de diriger l'avion au sol. Un avion au sol, ça roule avec les pieds. Le volant, c'est les pieds. Il y a un A380 qui vient de se poser à Innsbruck. On y croit, on y croit. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme parking? Parce que je me sens un peu petit là, je veux dire, par rapport à... Enfin, comment dire? Ils sont gros quand même, les avions à côté de moi. Bah, vous savez quoi? On va pas s'excuser, hein. On va aller se mettre au parking. C'est pas la taille qui compte, hein. Je suis désolé. Hop, on met le frein de parc et on coupe l'avion. Eh, je me suis pas foutu de votre gueule, hein, c'est pas mal Innsbruck. Regardez-moi ce décor. Franchement, ça a de la gueule comme aéroport. Tu les éteins tes moteurs ou merde? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... J'ai tout éteint là. Tiens, on va te couper le carburant. Voilà. Là, tu vas arrêter de tourner au bout d'un moment. Tu préfère conduire des petits avions ou les avions de ligne? Moi, je préfère les petits avions. On fait des petits vols comme ça, c'est plus sympa. J'aime bien les avions de ligne aussi, hein, de temps en temps, mais... Non, il a vraiment décidé que les moteurs allaient continuer à tourner. Écoute, je sais pas quoi faire, moi. Comment on coupe les moteurs, là? Il y a un moment... Transfert de réservoir auxiliaire, non, je m'en fous. Là, je vais lui couper les arrivées de tout, là, d'essence, d'air, de... Tout est coupé. L'avion, il est éteint. Pourquoi ça tourne encore? Ça se trouve, c'est un bug, hein. En vrai, c'est possible. Ah oui. C'était ça. Fallait retirer le petit capot. Voilà. La 380, pas très bien modélisée, hein. Le nez de l'avion, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Je précise tout de suite, un A380, ça ne peut pas se poser à Innsbruck. Hein. Voilà, c'est beaucoup trop gros, la piste est beaucoup trop courte. Il y a zéro A380 ne s'est jamais posé à Innsbruck. Et bah, c'était très cool. Merci d'avoir volé avec moi, les gens qui ont volé avec moi. Merci à vous, c'était très chouette. On va skier ? Ah bah on va skier, ouais, on va skier, ouais. L'intérieur ressemble à une voiture. Ah, le DA62, ouais. Regardez l'intérieur. C'est aussi confortable qu'une berline, hein. Bon, c'est juste qu'il faut un casque et un micro pour pouvoir se parler, mais sinon c'est comme une berline, ouais. Techniquement, un A380 peut se poser partout, mais juste une fois. Oui. Oui. Un A380 peut se poser partout, mais juste une fois. C'est comme... autant les avions font de bons sous-marins, autant les sous-marins sont de très mauvais avions. Bon, bah l'aéroport d'Innsbruck, en tout cas, l'approche, elle est vachement jolie. Moi, je la trouve très chouette. La prochaine fois, il faudra qu'on fasse l'approche sur l'autre piste, là. De l'autre côté de la piste, mais ça dépendra du vent. Et sinon, quoi d'autre? Ce que j'aime pas trop dans cet avion, c'est qu'on n'a pas une bonne visibilité à l'avant. Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. Le cockpit, il est assez enfermant dans cet avion. C'est un peu particulier. C'est pas giga agréable. Tous les avions sont à train rentrant. Seulement pour certains, il faut se poser un peu plus fort. Pardon, ça me fait rire. Elle est bonne. Bah c'était cool, hein. Merci les copains. Moi je vais m'arrêter là. On a fait un seul vol aujourd'hui. C'était peinard, c'était tranquille. Peut-être que j'en ferai un ce soir. Non, je pense pas en vrai. On verra. Des bisous, c'était chouette. Passez une bonne soirée. On va peut-être faire un raid. Attendez, on va raid. On va raid quelqu'un qui joue à Flight Simulator. Bah tiens, vous me parliez tout à l'heure de... On parlait tout à l'heure d'Ivao, donc je vais vous envoyer sur un streamer que je ne connais pas, qui vole sur Ivao. Il vole en A320. Ivao, c'est le réseau de contrôle aérien vocal. Soyez sympa avec lui. Attention, parce que vous allez débarquer à plusieurs centaines chez quelqu'un qui n'a que 6 viewers à l'heure actuelle. Donc lui, il découvre. Merde. Merde. Je cherche le slash. Putain, j'arrive pas à faire le slash. Hop, bougez pas. Voilà. Slash red. Voilà. Le raid a été créé. Le mec s'appelle Milan3669. Soyez sympa avec lui. Passez une bonne suite de stream en sa compagnie. Soyez sympa avec lui parce que voilà, c'est probablement la première fois que t'as vu qu'il a plusieurs centaines de viewers. Donc soyez cool. Bonne journée. À bientôt. Salut les copains. Merci d'être venus. À plus. Ciao.
Ou à de gauche pour séparation. Il y aura un...